C'était le sujet d'inquiétude israélienne depuis 30 ans. Le programme nucléaire iranien risquait de faire de l'ennemi juré d'Israël, la République islamique d'Iran, un État sanctuarisé capable d'opérer plus librement encore contre les intérêts de l'État juif, voire, en cas de confrontation, de le rayer de la carte. Maintes fois, il a été question de frappe. Israël a utilisé l'espionnage, les cyberattaques pour ralentir le programme pendant des décennies. Mais patiemment, inéluctablement, l'Iran avançait vers la bombe. Même les échanges de frappes de l'année écoulée n'avaient pas visé ses capacités. Et voilà qu'en pleine négociation avec les USA, alors que le délai de 60 jours donné par Donald Trump pour un deal, mais qui semblait devoir être dépassé sans conséquence, arrive à son terme, Israël a lancé une attaque extrêmement bien planifiée qui a porté des coups très durs à la fois aux installations nucléaires, aux capacités militaires, notamment antiaériennes, et de riposte balistique iranienne. Et dans le même temps, annihilé toute une partie de l'organigramme militaire iranien, en particulier au sein du puissant et redouté corps des gardiens de la révolution, pilier du régime. Mais ce soir, l'Iran répond avec un tir massif de tirs de missiles balistiques. Israël a menacé de frapper en représailles les installations pétrolières de l'Iran si jamais la République islamique visait les villes israéliennes. Jusqu'où la guerre va-t-elle aller? La destruction d'une grande partie du potentiel militaire de l'Iran, dans un contexte déjà de fragilisation de son régime, ne peut pas être considérée comme déjà la fin du problème. La riposte le montre. Mais par ailleurs, l'Iran n'est qu'un membre, et le plus faible, du bloc eurasiatique anti-américain, dont d'immenses forces n'ont pas encore donné. Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 13 juin 2025, il est 21h45 et nous sommes en direct et en présence de l'intolérable Léo Portal. Comment vas-tu, mon cher Léo?
Alors, le cher Léo a été remplacé, c'est Lucien Furcart ici ce soir. J'espère que tu vas bien, Philippe. Je n'ai qu'une seule
Excellent.
question pour toi. Israël, Iran, est-ce que enfin il y a quelque chose?
Je crois qu'il y a quelque chose. Tu as une voix vachement smooth qui parle, qui passe très bien à la radio. Il y a quelque chose, je pense qu'on peut le dire ce soir. Alors, je suis toujours prudent parce que je rappelle que quand il y avait eu les premiers échanges de tirs entre l'Iran et Israël l'année dernière, en avril, en cours de soirée, finalement, tout s'était arrêté. Mais malgré tout, je me souviens de ce que j'avais dit à l'époque, c'est-à-dire que c'était deux pays qui, c'est le résultat de la géographie, hein, ne sont pas en contact direct, et que donc forcément, on aurait sans doute la guerre ressemblerait à des échanges de frappes qui iraient de loin en loin et qui peut-être finiraient par se tasser. Alors ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire que les deux pays n'ont pas échangé, on va dire, dès avril de l'année dernière, leur stock d'armes aériennes. Au contraire, mais ça se fait par étapes. Et tous les quelques mois, il y a des bombardements mutuels. Donc il y a eu avril, il y a eu octobre. Et aujourd'hui, maintenant, avec les frappes massives qui sont en train de s'échanger encore actuellement, d'ailleurs, pendant l'émission de ce soir, je pense qu'on va faire beaucoup de suivi de ce qu'il y a sur Twitter et sur Telegram pour voir où en sont les frappes. Déjà, on a vu des images très impressionnantes de missiles balistiques iraniens qui ont passé le dôme et qui sont tombés. On le savait déjà, hein, depuis les frappes du mois d'octobre dernier que les missiles balistiques traversaient les défenses israéliennes. Et donc, on va suivre tout ça ce soir. Je précise simplement, avant de nous lancer là-dedans, que donc le deuxième sujet de l'émission, en deuxième moitié d'émission, ça sera ce qui était censé être le sujet à la base, avant que ces attaques n'aient lieu et qu'elles justifient par priorité au direct qu'on vienne là-dessus. Ce sera la question des émeutes aux États-Unis et de leur traitement par Donald Trump, qui est également une actualité extrêmement importante. Mais On commence donc avec ce sujet-là, donc des attaques sur l'Iran. Comme je l'ai dit en commençant, je pense. Alors, petit rappel quand même, petit rappel sur la situation historionomique de l'Iran. L'Iran, c'est un pays qui est dans la situation historionomique d'un ancien régime, c'est-à-dire un régime qui est comme l'Allemagne avant 1914, comme l'URSS avant 1991. C'est-à-dire un régime qui est un régime vieillissant, dont les élites sont vieillissantes, dont la légitimité est affaiblie par la distance depuis son époque fondatrice, et donc qui souffre de tensions internes. D'ailleurs, on le voit avec l'Iran depuis plusieurs années, avec les manifestations de jeunesse, notamment dans les villes. C'est toujours dans les villes que ces mouvements révolutionnaires ont tendance à avoir lieu. Mais qui tient encore parce que son appareil militaire est intact. Ça, j'ai eu l'occasion de le dire à l'occasion de pratiquement toutes les dernières émissions que j'ai fait sur l'Iran. C'est-à-dire que, selon moi, l'Iran, comme d'autres pays, d'ailleurs, j'ai dit ça aussi du Venezuela, sont des pays dont le régime tient parce que l'armée est encore là. Et en particulier, la partie idéologique de l'armée, c'est-à-dire le corps des gardiens de la Révolution. Et donc, si je dis que, comme un certain nombre d'autres régimes, le régime iranien, le régime des mollahs, est condamné à imploser, finalement, hein, comme tout ce genre de régime-là. En général, sous la pression d'une guerre, d'ailleurs. Hein, je citais l'Allemagne de 1914, ben, la révolution de 1918, ça vient justement d'une guerre qui est en train d'être perdue. Ça a été pareil avec l'URSS dans un style différent, c'était la perte de la guerre froide. Hein. Il y avait eu les difficultés en Afghanistan, la catastrophe de Tchernobyl, tout un tas d'humiliations qui avaient délégitimé le régime. C'est à ce moment-là que le régime tombe. Donc le régime est en grande partie délégitimé depuis un moment en Iran, on le voit à cause, je disais, toutes les manifestations. Mais il tient encore, et il tient notamment parce que sa force est encore intacte. Alors elle a dû se replier pendant les derniers mois, notamment. Elle a dû se replier du Liban, elle a dû se replier de Syrie avec la chute d'Assad. Elle est en train de se replier d'Irak, où l'Iran a toujours l'ascendant politique, mais c'est la Turquie qui devient le premier partenaire économique et qui dispute toute cette zone, qui est ancienne zone d'influence ottomane, qui la dispute à la Perse islamique. Et aujourd'hui, donc, c'est sur son propre territoire qu'elle est frappée. Alors, les premières frappes israéliennes, notamment celles qu'il y avait eu en octobre dernier, avaient déjà été assez humiliantes pour l'Iran. Et celles de cette nuit ont vraiment été épouvantables, en particulier parce que on a vu toutes les attaques sur le territoire même de l'Iran qui ont été menées par le Mossad, qui infiltre ça de manière totalement impressionnante. Hein. On est sur quelque chose d'équivalent et peut-être à une échelle encore supérieure à ce que l'Ukraine a fait subir à la Russie il y a 15 jours avec l'attaque de ces bombardiers stratégiques. Donc, très clairement, on a là une humiliation. La question, c'est que reste-t-il des capacités militaires iraniennes? Et les capacités militaires, naturellement, ça dépasse largement les régiments de missiles ou l'aviation, dont en gros, on a vu qu'il n'y a rien. Enfin, il semble que la maîtrise du ciel iranienne soit quasiment israélienne, pardon, soit quasiment totale en Israël. On a vu des drones Héron qui survolaient la région de Tabriz absolument sans problème, sans être abattus par la DCA iranienne qui, semble-t-il, n'existe plus. En revanche, si on a pu avoir un doute dans la journée sur la capacité de l'Iran à riposter, parce qu'on sait que plusieurs sites de lancement de missiles et de nombreux équipements de lanceurs de missiles balistiques avaient été détruits également par les Israéliens, qui ont donc sérieusement entamé la capacité de riposte iranienne. Mais on a pu se poser la question de savoir si effectivement il restait une capacité de riposte iranienne jusqu'en fin de journée, surtout qu'à partir de la fin de la matinée, le commandement israélien avait indiqué aux citoyens israéliens qu'il n'était plus nécessaire qu'ils restent à proximité de leurs abris, ce qui laissait penser que les forces armées israéliennes penser en fait que les capacités de riposte iranienne étaient nulles ou quasi nulles. Et or, on voit ce soir que, semble-t-il, en trois vagues, ont été lancées déjà 300. 300 alors, je ne sais pas, j'ai lu 300. N'hésitez pas à me dire si c'est des missiles. Alors, moi, j'ai compris que c'était des missiles. Est-ce que c'était missiles et encore drones? Parce qu'il y avait eu quelques drones, semble-t-il, qui avaient été lancés ce matin. Mais naturellement, ça fait très très mal à l'Iran. Donc la question, c'est naturellement, on a tendance à s'enthousiasmer, à se dire, ben, ça y est, en gros, les gardiens de la révolution sont déjà à moitié décapités. Il reste Khamenei pratiquement tout seul, donc le régime est sur le point de tomber, etc. Je ne pense pas que les choses iront si vite, pour répondre à la question d'il y a quelque chose. Est-ce que le régime iranien peut s'effondrer aussi facilement? Je ne pense pas. On a vu des manifestations en Iran de gens qui soutiennent le régime et donc qui sans doute demande une riposte, parce que cette riposte, les Iraniens devaient la faire. La question, c'est cette fois-ci, quel va être le degré de riposte de l'Iran? C'est-à-dire qu'on a vu des ripostes les deux dernières fois, en avril et en octobre, qui restaient malgré tout limitées, avec la volonté de ne pas poursuivre l'escalade, probablement parce que, ce qu'on avait dit à l'époque d'ailleurs, l'Iran se savait de plus en plus proche de l'arme nucléaire et veut atteindre ce seuil à tout prix. Et ne voulait pas donc donner de prétexte à Israël d'aller suffisamment loin. Mais naturellement, Netanyahou, qui voit un petit peu comme sa mission sacrée le fait de ne pas être celui qui laissera l'Iran accéder à l'arme nucléaire, eh bien, a lancé ses frappes. Donc la question, c'est de savoir si ça peut déboucher sur un conflit régional. Alors, conflit régional, il faudrait qu'il y ait d'autres acteurs qui veuillent s'impliquer. Or, ce qui caractérise l'Iran aujourd'hui, c'est que l'Iran est extrêmement seul. Encore une fois, je dis, il a perdu ses principaux alliés. Il reste les Houthis qui ont balancé, je crois, un ou deux missiles balistiques ce soir. Mais enfin, si les Iraniens en balancent 300, pour les Israéliens, ça ne change pas grand-chose. Donc, ça reste quand même très faiblard, tout ça. Mais la question, en fait, c'est pas tellement ça. C'est plutôt, hein, vous savez, l'important, pour moi, ce dont je vous parle toujours, c'est la confrontation géostratégique mondiale. C'est ça qui est important. Et ce qui est important, c'est le rôle de l'Iran dans ce cadre-là. Alors pour l'Occident, et donc l'Occident notamment allié au Israël, allié aux États-Unis, hein, il y a un intérêt à cette frappe. C'est que dans le dispositif de ce que j'appelle le bloc, hein, le bloc eurasiatique, c'est-à-dire essentiellement la Russie, l'Iran et la Chine, hein, auxquels vous pouvez ajouter la Corée du Nord et leurs États vassaux, l'Iran apparaît comme le bas-ventre mou, si vous voulez, hein, ce qu'on disait de l'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'endroit qui peut être frappé sans grand risque, tout en faisant très mal à l'ensemble. Alors pourquoi frapper sans grand risque? Eh bien parce que précisément, contrairement à la Russie, dont on a vu que la Russie a des difficultés conventionnelles, et contre l'OTAN, elle aurait sans doute encore plus de difficultés conventionnelles. Mais la Russie, il n'y a pas de possibilité d'entrer en guerre contre elle conventionnelle parce qu'il y aurait le risque d'une escalade nucléaire qui fait trop peur en Occident. Et donc naturellement, ça protège la Russie malgré les limites de son outil conventionnel jusqu'à maintenant. Ça la protège d'une attaque directe de l'OTAN. Vous avez la Chine qui, elle, a une masse conventionnelle énorme, qui a une capacité nucléaire qui est très inférieure à celle de la Russie, mais qui représente également un morceau tout à fait colossal face auquel l'Occident n'oserait pas aller en guerre, parce que ça, on sait que ce serait une guerre qui nécessiterait un engagement absolument colossal. Et donc, au milieu de tout ça, vous avez l'Iran qui n'est pas nucléaire, qui, conventionnellement, comparé aux Occidentaux, reste quand même nain. Et donc, qui est le plus facile à taper, finalement. Même encore plus que la Corée du Nord, qui, elle, est nucléarisée depuis un moment maintenant. Donc, c'est assez logique de frapper cet endroit-là Alors, il est peu probable que les Américains voulaient le faire immédiatement. On a vu que Donald Trump avait des hésitations là-dessus. On sait qu'il y a eu aussi des rumeurs de discussions, voire de brouilles avec Netanyahou. C'est très difficile d'y voir. Ça a été démenti publiquement. Maintenant, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a émis un communiqué disant que les Américains n'étaient pour rien dans la frappe qui avait lieu aujourd'hui. Après, est-ce que c'est pour faire une espèce de jeu gentil flic, méchant flic entre les États-Unis et Israël pour obliger l'Iran à négocier? Donald Trump a paru endosser d'une certaine manière les frappes en disant sur Truth Social il y a 4 ou 5 heures. Il y a 2 mois, j'ai son poste sous les yeux. Il y a 2 mois, j'ai donné 60 jours, j'ai donné à l'Iran un ultimatum de 60 jours pour faire un deal. Ils auraient dû en faire un. Aujourd'hui, c'est le jour 61. Je suis pas sûr que le calcul soit bon. Moi, il me semble qu'il avait dit ça en mars, mais bon. Je leur ai dit ce qu'il fallait faire. Mais ils n'ont pas pu. Maintenant, ils ont peut-être une deuxième chance. L'idée étant qu'il devait y avoir un autre round de discussion à partir de dimanche et que à ce moment-là, il pourrait y avoir une discussion là-dessus. Assez clairement, ce qu'on voit en fait, de toute façon, si on prend ce qui s'est passé depuis un an jusqu'à maintenant, c'est que c'est bien une sorte de guerre au long cours qui a démarré en avril dernier entre l'Iran et Israël, qu'on datera probablement dans le livre d'histoire avec la frappe, l'attaque israélienne sur le consulat iranien à Damas, qui a initié en fait toute cette séquence avec ces multiples frappes, qui se sont préparées les unes les autres et qui ont constitué une sorte d'escalade au long cours, dans lequel, encore une fois, les États-Unis ont un intérêt partagé. C'est-à-dire que pour Donald Trump, il y a la volonté de toute façon de retrouver un accord pour faire en sorte que l'Iran ne devienne pas un État nucléaire, mais il y a aussi tout un tas d'autres choses. Comme je dis, c'est une partie du dispositif du bloc eurasiatique. C'est le point faible. Donc taper là, c'est pas mal. Pas mal pour faire du mal à la Chine. Pas mal pour faire du mal à la Russie aussi. Les Iraniens auraient indiqué aujourd'hui, d'après une actualité que j'ai vu passer, qu'elle interrompait ses livraisons de drones et de missiles à la Russie, que ça aurait été notifié à Moscou ce matin, qui sont des armes qui servaient beaucoup à Moscou pour frapper en Ukraine, mais naturellement, ils en ont désormais besoin pour leur propre guerre contre Israël. Donc ça va affaiblir la capacité de frappe dans une certaine limite, naturellement, puisque désormais les Russes produisent eux-mêmes un certain nombre de ces drones Garand, c'est comme ça qu'ils ont rappelé les Shahed. Néanmoins, il y aura une partie qui n'arrivera donc plus en Russie et qui ne tombera plus en Ukraine. Il y a donc aussi un autre avantage, c'est que ça permet de menacer indirectement la Russie en faisant une espèce de démonstration de force. L'Iran est un partenaire de la Russie, s'est montré à la Russie, on est capable d'écraser vos partenaires comme ça, littéralement, en quasi 24 heures. Alors bien sûr, la préparation a été très très longue, elle a pris de nombreux mois au Mossad et aux forces armées israéliennes, mais voilà de quoi on est capable. Donc ça envoie une démonstration de force à l'échelle mondiale, qui est d'autant plus importante que les États-Unis ne sont même pas impliqués, enfin, directement avec leurs troupes, c'est-à-dire que c'est seulement Israël. Donc ça envoie un message très fort. Néanmoins, on sait que ce n'était pas forcément dans la stratégie de Trump. Pourquoi? Parce que là, il y a de nombreux indices ce soir. Alors, encore une fois, ça ne va peut-être pas durer. Hein. Peut-être que l'Iran, qui a peut-être préservé une partie suffisante de ses capacités d'enrichissement nucléaire, éventuellement pour produire quelques bombes. D'ici quelques semaines, jouera encore le gagne-temps en espérant arriver à ce seuil-là, en se disant que sinon il risque de prendre absolument trop cher s'ils sont bombardés conventionnellement. Israël n'a l'air d'avoir pas envie d'arrêter et d'après ce que j'ai vu, les forces armées israéliennes ont indiqué que les frappes devraient durer une quinzaine de jours, ce qui risque donc de durer encore un moment. Et donc à ce moment-là, les ripostes iraniennes devraient elles aussi forcément suivre, parce que sinon, ça discréditera d'autant plus la capacité iranienne à se défendre et ça affaiblira le régime. Mais il y a aussi un autre effet qui est tout à fait contraire à la stratégie de Donald Trump face à la Russie notamment, c'est l'effet sur le pétrole, puisque naturellement, tout ceci va faire remonter très fortement les prix du pétrole. Et c'est pour ça que c'est à la fois une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle pour Vladimir Poutine, parce que pour Vladimir Poutine, il n'a aucun intérêt à effectivement perdre le flux d'armes venant de l'Iran, mais il a aussi tout intérêt à ce que les prix du pétrole remontent afin de pouvoir continuer à financer la guerre en Ukraine. Parce que depuis quelques mois, la baisse des prix du pétrole, forcément, mettait un petit peu les finances russes en tension. L'effet d'intimidation sur Poutine, il est possible, j'y crois pas trop encore une fois parce que de toute façon qu'il y ait un effet d'intimidation ou pas, Poutine il est parti dans sa démarche de conquête de l'Ukraine et d'aller plus loin aussi en Europe, si ça est possible. En tout cas, il a l'intention de s'en donner les moyens. Donc je ne pense pas qu'il y ait d'effet d'intimidation. Effet d'intimidation sur la Chine, pas non plus forcément, mais il y a un effet de menace sur la Chine néanmoins parce que un dépend de la stratégie de la Chine, notamment à travers le corridor sino-pakistanais, j'en parle souvent. C'est d'avoir un accès direct aux hydrocarbures du Golfe et notamment aux hydrocarbures iraniens où la Chine a investi ou promis d'investir depuis quelques années plusieurs centaines de milliards de dollars afin de développer l'infrastructure pétrolière iranienne pour garantir l'approvisionnement de la Chine. Et donc naturellement, si Israël commence à taper les installations pétrolières iraniennes, ça va faire monter en flèche les cours du pétrole, ce qui va améliorer la situation financière de Vladimir Poutine. Je pense même dans une mesure beaucoup plus importante que les difficultés qu'il aura à s'approvisionner en missiles et en drones. Donc ça sera plutôt un gain pour la Russie. En revanche, de l'autre côté, ça sera quelque chose qui risque de rajouter une tension, on va dire, sur la Chine, puisque ça limitera l'approvisionnement en pétrole. Et naturellement, en plus, l'augmentation du prix du pétrole à l'échelle mondiale, c'est toujours l'assurance d'une perte générale de pouvoir d'achat des populations et des risques accrus d'agitation politique, en particulier en Europe, mais aussi dans d'autres endroits. Ça peut ralentir l'économie chinoise. Il y a aussi des problèmes aux États-Unis. Donc tout ceci est extrêmement lié. Alors, il y a autre chose qu'il faut voir, c'est que si jamais le régime des Mollahs tombait, la question se poserait de l'intervention éventuellement de la Russie et de l'aide que la Russie pourrait apporter au régime des Mollahs. Je ne sais pas si je n'ai pas vu ça avant de démarrer l'émission. J'ai regardé il y a 1 heure. Alors, je vois. Je suis sur. Du coup, je tombe sur un article. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec son homologue iranien et le premier ministre israélien. A indiqué le Kremlin, après multiples escalades, qualifiées par le Kremlin de dangereuses escalades, et souligné que la Russie condamnait les actions d'Israël qui constituent une violation de la Charte des Nations Unies et du droit international. Voilà, c'est vraisemblablement le discours qu'il va avoir, et s'est déclaré prêt à jouer un rôle de médiateur afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions. Parce que, naturellement, pour la Russie, c'est ça qu'il faut voir, il y a pour l'instant le fait que l'Iran soit en guerre. Comme je l'ai dit, ça, c'est pas forcément un problème parce que ça peut avoir des avantages au niveau mobilisation encore plus, de la même manière que la Corée du Nord s'est véritablement arrimée à la Russie dans le cadre de la guerre et donc fournit est devenu un fournisseur encore plus important de la Russie. Le fait que l'Iran soit menacé lui-même peut donner le sentiment aux Russes qu'ils seront encore plus investis dans la conduite. D'une sorte de co-belligérance à l'échelle mondiale, si vous voulez. Donc, c'est pas sans intérêt. Il y a la question aussi des prix du pétrole, je l'ai déjà dit. Mais, naturellement, si l'Iran s'effondre, en revanche, c'est une catastrophe totale pour la Russie, puisque c'est véritablement le bas-ventre mou, encore une fois, du bloc. Et ça amène en fait pratiquement directement l'Occident, si jamais tout d'un coup donc le régime iranien tombait, il est probable que serait mis en place un régime pro-occidental, peut-être avec un héritier du Shah ou quelque chose comme ça. Et à partir de là, ben, ça mettrait, on retombe dans le grand jeu, vous savez, du XIXe siècle entre l'Empire britannique et la Russie, hein. La Russie ne voulait absolument pas que la Perse tombe aux mains des Britanniques parce que ça voudrait dire qu'ils auraient les Britanniques dans le dos. Donc c'est exactement un souci, c'est un souci qui est lié à la géographie, donc c'est un souci qui existe encore aujourd'hui naturellement du côté russe et qui les inquiète énormément. Donc la Russie ne pourrait pas se permettre, par contre, de voir tomber le régime des Mollahs. Devoir s'effondrer. Ça, c'est pas possible. Donc, si jamais, donc dans l'immédiat, difficile de savoir ce que les Russes pourraient faire pour aider les Iraniens véritablement dans une guerre contre Israël. Les Russes n'ont pas vraiment de moyens à distraire dans ce sens-là. En revanche, si jamais le régime des Mollahs s'effondrait, on peut imaginer que vous ayez des contingents de soldats russes ou de paramilitaires, de troupes genre Wagner ou l'Afrika Korps, qui seraient envoyés en Iran pour aider le régime à tenir. Peut-être pas sur la totalité du territoire, peut-être juste sur une partie du territoire. À ce moment-là, on tomberait sur quelque chose qui ressemblerait un petit peu à la République de Salo, ce qui est le nom d'une ville, hein, de Salo, qui était en fait la République sociale italienne, vous savez, qui a été grosso modo, qui se repliait sur la moitié nord de l'Italie entre 1943 et 1945, après le débarquement allié en Sicile, puis dans la botte italienne, hein, qui avait fait reculer, donc, et fait tomber le régime fasciste Mussolini. Mussolini avait été emprisonné, il a été libéré par les Allemands, par le coup de main d'Otto Skorzeny, et ensuite, donc, il a été récupéré par les Allemands qui en ont refait, en fait, pour le coup, un gouvernement purement fantoche, en donnant ce régime, donc, recréant le régime fasciste dans le nord de l'Italie, c'est cette République sociale italienne, et c'est ça qui a duré jusqu'à la fin de la guerre, en fait. Et donc, on pourrait voir quelque chose comme ça si jamais le régime des Mollahs tombait dans les semaines. De toute façon, le régime des Mollahs va tomber, simplement parce que à la fin de la confrontation avec le bloc eurasiatique, vu que la Russie perdra, la Chine perdra, l'Iran forcément perdra aussi. Donc, le régime des mollahs tombera et sera remplacé sans doute par quelque chose de beaucoup plus pro-occidental, parce qu'encore une fois, il faut se souvenir que le régime des mollahs est véritablement une parenthèse anti-occidentale dans l'histoire de l'Iran au XXe siècle. L'Iran était un allié, sous le régime du Shah, était un allié des Occidentaux. C'était un pays d'ailleurs qui avait des grosses difficultés économiques, mais qui était en train de se développer, qui était une puissance régionale, dont les avions étaient achetés auprès des États-Unis, et qui était allié d'Israël. C'est tout à fait ça qui pourrait se passer. Et je renvoie à la dernière grosse émission que j'avais fait, je pense, sur Israël, dans laquelle j'expliquais que on avait une espèce de il y aurait probablement en sortie de la guerre une espèce d'union européenne, enfin l'équivalent des premières communautés européennes, en tout cas pas quelque chose aussi intégré qu'aujourd'hui, ça se ferait progressivement, mais une première structure confédérale qui probablement apparaîtra dans tout le Moyen-Orient. Et dont peut-être une partie de l'Iran pourrait justement en faire partie, cependant que l'Asie centrale et une bonne partie du Moyen-Orient, l'autre moitié en fait, passerait plus ou moins sous contrôle turc. Parce que ceux qui peuvent se frotter les mains actuellement, ce sont les Turcs qui cherchent à rétendre en direction de l'Asie centrale, mais aussi du monde arabe, leur influence, et en particulier du monde arabe qui était jadis dominé par eux. Alors ils ont quasiment pris la Syrie, ils ont des velléités de prendre l'Irak aussi très très fortes. L'Azerbaïdjan est un allié, un vassal de la Turquie. Il a aussi des vues sur le nord-ouest de l'Iran qui est peuplé d'Azéris. D'ailleurs, les Iraniens détestent les Azerbaïdjanais à cause de ça. Donc tout ceci joue aussi dans le sens de l'Iran. Il faut bien se rendre compte Israël, en faisant ce qu'il fait aujourd'hui, de taper l'Iran comme ça, en même temps peut se préparer en partie un avenir un petit peu compliqué, parce que l'Iran peut servir aussi de contrepoids à la Turquie régionalement. Un Iran trop affaibli, c'est quelque chose qui à long terme sera dangereux pour Israël. En ce qui concerne la réaction de la Chine, je l'ai trouvée extrêmement. En fait, elle était beaucoup plus mesurée et distante que ce qu'ont dit les Russes. C'est-à-dire que les Russes ont condamné carrément les frappes israéliennes. Les Chinois, eux, ils se sont limités à appeler leurs ressortissants en Israël à garder leur calme et à rester vigilants, en craignant la riposte iranienne. Mais c'est tout ce qui a été dit par les Chinois, donc c'est pas aller plus loin que ça. Maintenant, encore une fois, je pense que la Chine non plus ne voudrait pas que l'Iran tombe, que le régime des mollahs tombe. Vraisemblablement que si les Russes faisaient quelque chose pour tenter de maintenir au moins partiellement le régime des mollahs, vraisemblablement que la Chine essaierait d'aider aussi à sa façon. De toute façon, je suis à peu près convaincu d'une chose, c'est qu'au fur et à mesure que la confrontation mondiale entre grosso modo le bloc asiatique et les États-Unis et leurs alliés va s'installer et monter en puissance, il va y avoir une intégration croissante des stratégies de combat et de soutien dans la confrontation des différents acteurs du bloc eurasiatique. La Chine, on le voit déjà, diminue ses fournitures de composants en drones à l'Ukraine, les accentue auprès de la Russie. Donc elle soutient de plus en plus l'effort russe parce que ça permet de faire de l'Ukraine une sorte de guerre par proxy avec les Occidentaux. Et avec les Américains, et donc de les embêter de ce côté-là, éventuellement de préparer et de se libérer un peu les mains du côté de Taïwan. Donc voilà où on en est à ce stade. Alors j'essaie d'aller faire un petit tour sur X et sur le Telegram pour voir. Alors je ne sais pas si c'est toujours toi qui es là, Denis, ou si c'est. Enfin Lucien, ou si c'est Léo, alors je regarde. D'accord.
Je suis là.
Alors est-ce que tu as vu passer d'autres trucs, d'autres frappes, d'autres nouvelles? On a eu des infos ou
Pour
pas?
l'instant, il y a l'annonce du fait qu'Israël va continuer à attaquer.
Ouais.
C'est ce qu'il a dit. J'ai pas forcément plus d'infos pour l'instant. Il y a encore des frappes qui atteignent l'Iran, effectivement.
Voilà, il y aurait eu,
Qu'est-ce que
d'après
tu
les
en
médias
penses?
iraniens, deux
Qu'est-ce qu'il y a
chasseurs
en France?
israéliens abattus, mais il n'y a pas forcément
Pas en cas de. De
de...
réplique
Hein?
israélienne forte. La France a dit qu'ils soutiendraient Israël en cas de réplique israélienne forte.
Ah oui, ben en plus, je vois qu'Emmanuel Macron, hein, Emmanuel Macron est bien rentré dans le rang. Il a dit que c'est dommage que l'Iran n'ait pas saisi l'occasion de négocier avec Vladimir Poutine et qu'est-ce que je raconte, avec Donald Trump et aussi que en gros il reportait précinédié ce qui était envisagé comme date pour reconnaissance d'un État palestinien. Encore ce qui montre que les démonstrations de force peuvent avoir un certain intérêt. Pour ce qui est de cette question autour de l'Iran, voilà ce que je vois personnellement. Encore une fois, on voit se développer depuis un an des choses toujours pareilles. C'est difficile de savoir quel sera exactement le chemin qui sera emprunté, mais on voit à peu près la direction. Et ce qu'on avait pu dire dès les premiers échanges de frappes historiques, hein, qui ont vraiment été très importants en avril l'année dernière, même si ça s'était arrêté tout de suite, il y avait un seuil qui avait été franchi, il y avait un tabou qui avait été brisé, qui était celui finalement de l'échange direct de frappes de l'Iran et d'Israël l'un sur l'autre. Et on voit encore d'une certaine manière, petit côté loi log périodique, hein, je le mentionne souvent, vous savez, le fait que. Quand une crise importante doit arriver, vous avez des mini-crises qui vont se succéder les unes après les autres, crescendo, de plus en plus rapprochées et de plus en plus fortes, jusqu'au moment où ça pète. Véritablement. Et donc, on a vu ça, on a vu avril, on a vu juillet, pardon, on a vu octobre. Et ensuite, on a maintenant, et en plus, autour de tout ceci, il y avait toutes les frappes indirectes, les frappes sur le Hamas, l'assassinat d'Haniyeh à Téhéran, l'assassinat de Nasrallah et la débâcle du Hezbollah, les attaques au Liban, etc. Et d'une certaine manière aussi la déroute, d'ailleurs, du régime d'Assad. Tout ceci est. Je pense, sera analysé par les historiens comme en fait une grosse guerre Iran-Israël ou Iran-Israël et occidentaux, dont la date de début, encore une fois, sera probablement avril 2024 et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à peut-être demain, parce que ça ne serait pas étonnant que ça dure quelques années. Le corps des gardiens de la Révolution, c'est quand même aussi beaucoup d'autres choses que simplement donc les forces aériennes et les forces de missiles. Avec ces attaques, ces ripostes de missiles balistiques qui démontrent qu'ils sont toujours là et qu'ils ont toujours des capacités, ils ont sans doute encore les capacités aussi sur place en Iran de maintenir la loi du régime. Donc c'est pour ça que je ne vois pas le régime iranien s'effondrer tout de suite. Je pense que ça va être long. Il va y avoir des frappes importantes, probablement des frappes donc sur les installations pétrolières qui vont affaiblir et faire encore beaucoup de mal à l'économie iranienne. Le régime s'effondrera pas tout seul. Je pense qu'il faudra d'abord que son appareil, on va dire, de troupes au sol, hein, c'est-à-dire l'armée, quoi, mais notamment le corps des gardiens de la Révolution, soit étrillé. Et ça, le faire juste avec des frappes aériennes. Ça paraît quand même assez compliqué. Donc, je pense qu'on va assister à des développements de plus en plus importants de cette guerre-là, que ça, c'est la première phase, et vraisemblablement qu'ensuite, il y aura d'autres choses. Et peut-être encore une fois, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais je pense qu'il y aura peut-être des agitations qui seront faites contre l'Iran, notamment en Irak, hein, vous savez, où il y a déjà eu beaucoup de problèmes pour les milices iraniennes en Irak qui ont été affaiblies, notamment dans les secours qu'elles ont essayé de porter au Hezbollah ou en Syrie. Ça pourrait être l'étape suivante, c'est-à-dire, j'en ai souvent parlé, cette révolution nationale irakienne. Je renvoie à la crise de 2019 où il y a eu des soulèvements nationalistes en Irak contre la présence iranienne, y compris dans les régions chiites. Donc, c'est vraiment le sentiment national arabe qui joue. Hein, au-delà du chiisme partagé, ben, il reste que les Irakiens sont des Arabes alors que les Iraniens sont des Perses. Donc forcément, ils ne s'entendent pas parfaitement. Et en plus, encore une fois, on est dans une montée de l'identité nationale irakienne qui a commencé à partir de Saddam Hussein, qui est un petit peu l'ancien régime pour le coup, irakien, qui se serait effondré si, même si les Américains n'avaient pas envahi en 2003, le régime de Saddam Hussein vraisemblablement se serait effondré, tout comme le régime d'Assad en 2011 avec le mouvement du printemps arabe qui aurait aussi touché l'Irak. Le printemps arabe n'a pas touché l'Irak pour la simple et bonne raison que le pays avait déjà fait la plupart des mutations qui ont amené le printemps arabe dans les autres pays arabes, mais si ça n'avait pas été le cas, vraisemblablement que Saddam Hussein aurait subi à peu près le même sort qu'Assad. Et donc, la suite de ça, c'est naturellement la volonté d'indépendance. Et donc, je pense que c'est un mouvement qui devrait avoir lieu et sur lequel Israël, mais aussi la Turquie, ont des intérêts localement convergents pour faire reculer l'Iran. Après, la question de ce que ça produira dans un second temps et dans l'après-guerre, c'est d'autres difficultés. Encore une fois, je pense que toutes ces régions-là risquent beaucoup plus de tomber dans l'escarcelle turque qu'israélienne. Et donc, il y aura probablement des luttes d'influence très importantes dans cette région-là pour ça. Voilà, jette un petit coup d'œil sur le Middle East Spectator dans Telegram pour voir quelles sont les dernières infos. Alors, voyons. Ah, tiens, très intéressant. On a une déclaration du corps des gardiens de la Révolution. J'essaie de la traduire pour ne pas le faire en direct. Enfin, pour pas avoir à faire l'effort de le traduire de tête. Je vais mettre tout ça dans Google Trad, on va gagner 5 minutes. Donc, déclaration du corps des gardiens de la Révolution sur. Ah, ça n'a pas marché, mon truc. Voilà. Sur l'opération Promesse vraie ou vraie promesse 3. Alors, je sais pas quel était le premier. Au nom d'Allah, tout miséricordieux, le très miséricordieux, suite à l'annonce initiale du succès de l'opération Promesse vraie 3 contre les positions stratégiques du régime sioniste, nous informerons par la présente le peuple iranien et les peuples libres du monde entier les détails de cette opération. Au cours de cette opération, les unités de missiles et de drones de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique, utilisant une combinaison de systèmes de localisation et de renseignement, ont ciblé des centres militaires et des bases aériennes à l'origine de l'attaque criminelle contre notre pays, ainsi que des centres militaro-industriels utilisés pour la production de missiles et autres équipements et armes militaires afin de commettre des crimes contre les nations résistantes de la région, en particulier les peuples opprimés de Palestine et de Gaza. Nous avons ciblé ces sites ainsi que d'autres cibles militaires au cœur des territoires occupés. Des rapports de terrain, des images satellites et des interceptions de renseignements indiquent que des dizaines de missiles balistiques ont atteint des cibles stratégiques. Malgré les déclarations d'interception, l'ennemi n'a pas réussi à contrer pleinement les vagues d'attaques de missiles de la République islamique d'Iran. L'opération Vraie Promesse 3, lancée en réponse aux ordres du guide suprême de la Révolution islamique et du commandant suprême des forces armées et aux exigences du noble peuple iranien, s'inscrit dans la réponse de la République islamique d'Iran au sang innocent versé dans notre nation. Cette opération a été menée en coordination avec toutes les forces armées et agences de la République islamique de manière autoritaire et agressive, et son message principal est que la sécurité de la République islamique d'Iran est la ligne rouge des forces armées. Bon, ça ne nous dit pas s'ils estiment qu'ils ont terminé ou s'ils vont enchaîner. Alors j'ai vu qu'il était question tout à l'heure d'un missile qui serait tombé sur le quartier général des forces israéliennes, mais je ne sais pas si ça leur a fait mal. Netanyahou appelle les Iraniens à se dresser contre le gouvernement, mais naturellement, c'est tout l'intérêt qu'ils ont, enfin qu'aurait Israël, ce qui éviterait de devoir taper directement et d'une autre manière, trouver une manière de taper encore une fois les forces des corps des gardes à la Révolution. Mais je pense qu'elles sont encore suffisamment puissantes, puisque leurs forces, on va dire, conventionnelles terrestres n'ont pas été touchées, pour tenir le pays. Ouais, il y aurait eu des impacts sur le quartier général des forces de défense israéliennes, mais je ne sais pas quels sont les dégâts encore, et je ne vois pas d'autres nouvelles sur les frappes israéliennes en réponse. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Est-ce que j'ai raté une actualité, mon cher Léo, que je n'ai pas vue? Tu as vu passer quelque chose que j'ai raté qui mérite mon commentaire là-dessus?
Pour l'instant, non. Ce qu'on peut dire, et ça sort du sujet, mais j'en profite puisqu'on a
Plus de 2000 personnes présentes ce soir. Bonsoir à tous. Déjà, abonnez-vous, puisque j'imagine que la majorité de vous, certainement, ne sont pas abonnés. Et on rappelle que dimanche, donc après-demain, il y aura un congrès sur l'histoire théorique animé avec deux conférences par Philippe Fabry que vous regardez actuellement, avec aussi une conférence sur l'épistémologie de l'histoire théorique. Et il reste 5 places. Pour donc participer au congrès, on sera à peu près une centaine de personnes. C'est à Paris, on vous y attend et le lien est en description. Je vais également le mettre dans le chat. Vous êtes les bienvenus. Bisous.
Très bien. Alors de toute façon, je vais passer au deuxième sujet de l'émission, qui est le développement de la situation interne aux États-Unis. Mais probablement qu'on refera un point sur l'Iran, ce qui se passe à la fin de l'émission.
Oui. Si tu veux, avant de passer au deuxième sujet, je peux te poser des questions qui sont en lien avec le sujet déjà.
Oui, tu peux, pourquoi pas. Allons-y.
On peut tenter ça. Donc, on remercie Diego pour son don. La question étant très largement hors sujet, on y répondra. J'ai vu, je crois qu'il était souscripteur, on y répondra en privé. Lucien Furcart, qui est à ma droite. On le remercie pour son don. Il nous dit, est-ce l'heure pour la Syrie revancharde d'entrer sur scène?
Est-ce que c'est... Alors, c'est un peu... Alors, c'est une bonne question, en particulier en à propos de la question irakienne. Parce que je rappelle, pour ceux qui ne comprennent pas le concept, dans le cadre de la Révolution nationale, vous avez souvent un impérialiste revanchard qui apparaît. Quand il a la capacité de se déployer, il va chercher à maximiser, on va dire, la puissance nationale, notamment en allant rassembler, pour Hitler, c'était les peuples germaniques dans le Troisième Reich. Pour Vladimir Poutine, c'est ramasser le monde russe sous la domination de la Russie. Et il peut y avoir aussi des choses comme ça sous Franco, par exemple, même si Franco ne l'a jamais fait parce qu'il se sentait trop faible, notamment face aux Britanniques. Mais il y avait les phalangistes, eux, ils étaient pour la conquête du Portugal, hein, pour faire l'unité de la péninsule ibérique, par exemple, à l'époque. Donc c'est toujours comme ça. Et je pense que, vu que la révolution nationale syrienne a commencé en 2011, Ahmed al-Shara, l'actuel président intérimaire, mais qui, à mon avis, sera là pour le moment, et l'équivalent, si vous voulez, voilà, c'est le Bonaparte syrien, et vraisemblablement que si la Syrie devait avoir des ambitions à l'extérieur de ses frontières, c'est lui qui les porterait. Et il est vraisemblable que la Syrie peut avoir ce genre d'ambition, notamment en direction de l'Irak, parce qu'il y a toujours eu une ambition syrienne en direction de l'Irak, même à l'époque de Saddam Hussein, d'ailleurs, c'est une des raisons qui lui ont fait prendre le pouvoir. Il y avait une volonté syro-irakienne d'union. Il y avait ce projet de créer un seul État syro-irakien. Saddam Hussein n'en voulait pas, donc il a fait en sorte de devenir le seul président et d'empêcher ça, parce qu'il voulait être le premier à diriger localement. Mais il y avait cette idée-là. Donc ça fait partie des ambitions syriennes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, historiquement, la Syrie et l'Irak ont toujours fait partie plus ou moins du même espace. Et cela depuis presque 3000 ans, hein, puisque vous aviez eu les grands empires assyriens recouvrer toute la région, hein, depuis la Mésopotamie jusqu'au Liban. Hein, donc c'est, tout cet espace a toujours eu une unité assez étatique, stratégique, assez remarquable, jusque dans toute la période où elle a été dominée par l'Empire ottoman, où elle était un dominion de l'Empire ottoman, mais où elle était également unie. Donc le fait de découper tout ça en morceaux n'était pas forcément une évidence. Ce sont les Occidentaux qui ont fait ça après la Seconde Guerre mondiale et avec le démantèlement de l'Empire ottoman. Mais voilà, tout ceci fait qu'il peut y avoir ce genre d'ambition, et précisément, l'impérialisme revanchard syrien pourrait s'exprimer notamment avec le soutien de la Turquie et en direction de l'Irak. Parce que ça serait l'occasion pour la Turquie d'utiliser une sorte de brise-glace pour étendre son influence à toute cette région, hein, qui fait partie, hein, encore une fois, Erdogan veut retrouver la zone d'influence, la sphère d'influence de ce qui était celle de l'Empire ottoman. Et donc, tout à fait, la Syrie pourrait servir d'outil à la Turquie pour aller chercher des noises, précisément à l'Iran, à travers des combats de milices notamment, sur le territoire irakien, ou pour servir également le nationalisme irakien, peut-être à travers une forme de nationalisme syro-irakien. Donc je pense qu'il est tout à fait possible que ça, qu'un affaiblissement de l'Iran ouvre la voie à ce genre de, à ce genre de développement. Oui. Dans le cadre donc de ce qui pourrait amener donc à ce que les forces des gardiens de la révolution soient effectivement étrillées ou suffisamment affaiblies pour que le régime des mollahs s'effondre. Une autre question ou je peux enchaîner?
D'autres questions? On remercie GT pour son don. Il nous dit, si Jacques
Merci.
Chirac était actuellement président, aurait-il pris parti de l'Iran?
Non, je pense pas quand même. Je pense pas. Mais je sais pas. Mais je pense pas. Je pense pas quand même. Le contexte. Après, c'est toujours très difficile parce que Jacques Chirac, il avait les positions qu'il avait dans le contexte qui était le sien à l'époque. On n'est pas dans le même contexte aujourd'hui. On est 25 ans plus tard. Donc, c'est très difficile de répondre à ce genre de questions.
Question de GT, encore une fois, qu'on remercie pour son don. À force de multiplier les fronts, n'est-ce pas plutôt le régime israélien qui peut s'effondrer?
Alors non, je le vois pas comme ça parce que déjà malgré tout, ils arrivent à conserver le soutien de leurs alliés occidentaux et notamment américains. L'action qu'ils mènent est conforme, on va dire, aux intérêts globaux occidentaux, en tout cas, elle leur est pas véritablement antinomique. Donc ça met pas Israël en danger de ce point de vue-là. Et ensuite, c'est un pays qui a énormément de dynamique, de réserve, et qui, vu sa trajectoire astronomique, est encore très très jeune, et donc n'a pas les fragilités qui sont celles d'un régime comme le régime iranien, qui encore une fois est en fin d'ancien régime, donc on est historionomiquement tout à fait dans un autre objet. Donc je ne pense pas qu'il y ait aussi pour Israël dans ce sens-là.
On remercie enfin, Adrien, donc Fistule, pour son 40e mois d'abonnement consécutif en tant que maître historionome. Et il
Merci.
nous dit 40 mois, putain, vive les rails historionomes. Bisous, même s'il a dit bisous, je corrige. Et à dimanche, au meilleur. Parce que dimanche, je rappelle, regardez description, congrès, Paris, on sera là. On remercie GT pour son don. Il nous dit, avez-vous
Merci.
lu Rise and Kill First de Ronen Bergman? Si oui, êtes-vous étonné de l'art opératoire israélien? Après l'affaire des Beepers, le Mossad demeure le maître des opérations sur sol étranger.
Alors malheureusement, je ne l'ai pas lu. Non, je ne connais absolument pas ce livre. Par contre, clairement, la maîtrise israélienne est très impressionnante. Après, c'est des décennies de travail, encore une fois, qui sont exploitées. Il y a énormément d'habileté, naturellement, dans ce qu'ils ont fait. Mais c'est vraiment des choses qui sont préparées au très long cours, dont on voit les déploiements aujourd'hui. C'est tout à fait fascinant, mais... voilà, ça a pas été lancé depuis la veille, quoi. On le sait que la pénétration israélienne en Iran est très très forte et je pense d'ailleurs qu'elle est favorisée par le fait que encore une fois, il n'y a pas d'hostilité iranienne historique à Israël. Il y a une hostilité de la République islamique d'Iran qui est idéologique et consubstantielle à ce régime, mais la population iranienne en soi n'a jamais été n'a jamais eu une hostilité particulière à Israël. Donc, et il n'y a pas je pense pas qu'il y ait un antisémitisme iranien équivalent à ce qu'est l'antisémitisme qu'on trouve traditionnellement dans le monde arabe. Au contraire, même depuis Cyrus de Perse, il y a toujours eu une proximité, une amitié, voire une forme d'admiration entre Israël et la Perse. Et je pense que ce sont des choses qui jouent et qui favorisent l'infiltration du Mossad dans ce pays, assez clairement.
Et on remercie Alyosha pour son 29e mois d'abonnement consécutif en tant que frère historionome. Et tu peux continuer, Philippe.
Alors donc je vais enchaîner sur le deuxième sujet. Juste avant, je voudrais vous poser une question. S'il n'y avait plus d'émissions sur cette chaîne demain, est-ce que ça vous manquerait? Sans doute que oui, en tout cas sans doute pour les quelques 5 ou 6 000 d'entre vous qui regardent chaque émission dans son intégralité. Pourtant, 90 et 95% d'entre vous n'a jamais rejoint la chaîne, ni fait un petit don pour soutenir notre travail. Alors je vous demande de vous poser la question, si demain la chaîne s'arrêtait, combien seriez-vous prêt à donner pour qu'elle soit toujours là? Et puis donner le dès maintenant, hein, et assurer l'avenir de cette émission et montrez-nous le plaisir que vous avez à la regarder. Ça nous aidera énormément et je remercie, hein, c'est un appel que j'ai pas fait pendant très longtemps et que j'ai fait ces dernières semaines. Je remercie tous ceux qui nous ont rejoints. Je pense qu'on citera leur nom, tous ceux qui nous ont rejoints la semaine passée. On citera leur nom à la fin de l'émission comme on a fait la semaine dernière. Ceci étant dit, on part aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, très intéressant ce qui se passe, cette confrontation qui a lieu donc avec la reprise ou le départ des raids massifs de la police de l'immigration, l'ICE. Je sais plus comment ça se prononce, c'est l'ICI, je crois, qui a intensifié ses opérations depuis le 6 juin, notamment à Los Angeles, et cible les sans-papiers dans les lieux de travail comme les stations de lavage automobile, ce genre de trucs. Ce qui a provoqué une opposition avec des manifestations contre ces raids qui ont commencé à dégénérer en affrontements à partir du 8 juin. Plus de 1 000 manifestants se sont heurtés à la garde nationale à Los Angeles avec des jets de projectiles et l'usage de gaz lacrymogène. En effet, le président Donald Trump avait ordonné le déploiement de 2 000 membres de la garde nationale et 700 marines à Los Angeles pour rétablir l'ordre, décision qui depuis est critiquée par le gouverneur démocrate Gavin Newsom comme illégale et incendiaire. La maire de Los Angeles, Karen Bass, a imposé un couvre-feu après plusieurs jours de troubles. La situation a semblé s'apaiser un petit peu. Semble-t-il, depuis hier, ça a redémarré à nouveau avec des violences. Gavin Newsom a indiqué en dernier lieu que tout en appelant les manifestants à éviter l'escalade, il a dénoncé un piège de Trump qui viserait à exploiter le chaos pour justifier une répression accrue, en le traitant pratiquement en disant qu'il avait un fantasme dictatorial. Une codécision de la Cour d'appel fédérale du 12 juin a temporairement bloqué jusqu'au 16 juin, donc jusqu'à lundi, un ordre judiciaire qui exigeait le retrait des troupes. Donc ça prolonge la présence militaire donc des Marines et des Marines, comme on dit dans les films, et de la garde nationale qui a été déployée sans l'accord du gouverneur. Je crois que ce n'était jamais arrivé depuis les années 60, probablement, au moment de la lutte contre les droits civiques. Donc forcément, c'est quelque chose de très important et c'est un signe, on va dire, d'hostilité de l'État fédéral contre les libertés des États fédérés. C'est comme ça que ça peut être perçu. Au total, Donald Trump aurait ordonné le déploiement de 4 000 membres, mais les 2 000 premiers, on les a vus se déployer. Les 2 000 suivants, on ne sait pas trop encore s'ils seront déployés ou pas. Donc voilà où on en est. Et a priori, alors je n'ai pas particulièrement de détails là-dessus, mais on commence à voir le même genre de choses, en tout cas de manifestations, à New York, dans un certain nombre de grandes villes, y compris au Texas, à Austin, par exemple. Et on a vu des manifestations qui sont extrêmement violentes, avec en plus des gens qui brandissent les drapeaux mexicains de la même manière que chez nous, ils brandissent les drapeaux israéliens en général. Mais on a vu aussi à New York, on a vu des gens qui brandissent le drapeau palestinien comme ils font chez nous. Donc c'est vraiment transoccidental cette question. Véritablement, on voit la question politique de l'extrême gauche islamo-immigrée, si vous voulez, qui se déploie et qui devient en fait la nouvelle gauche. Hein. La gauche simplement communiste n'existe plus. Maintenant, c'est ça le véritable ressort de l'extrême gauche, assez logiquement. Alors, qu'est-ce que je vois de particulièrement intéressant là-dedans? C'est que ça dit quelque chose de la société américaine fondamentalement, et pas juste de ce que fait Donald Trump. Ça, c'est l'écume des choses. La réalité, c'est que c'est très intéressant de comparer ce qu'on voit là à ce qui avait été passé sous silence relativement en Europe il y a un an parce que c'était en sens inverse et qu'aujourd'hui, naturellement, toute la bien-pensance hostile à Donald Trump et aux déportations d'immigrés illégaux vient vous expliquer que c'est scandaleux que les États, en gros, Gavin Newsom a une stature d'homme d'État, que le maire de Los Angeles a tout à fait raison, alors qu'on se souvient comment elle avait géré catastrophiquement les incendies, etc. Enfin, les gens oublient ces images. Forcément, l'année dernière, en janvier 2024, vous aviez eu une confrontation, une montée en tension très importante entre l'État du Texas et Washington, qui était le miroir de ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, l'État du Texas disait que c'était lui, que la frontière sud du Texas, avec le Mexique, peut-être que c'était la frontière fédérale des États-Unis, et sans doute ça l'est, mais c'était aussi la frontière de l'État, et donc l'État avait le droit de la protéger, et en cela, il avait le droit de mettre des barbelés, etc., pour empêcher les migrants de passer, de traverser. Donc, naturellement, vous aviez plein de migrants qui essayaient de traverser quand même, vous en aviez qui se noyaient, etc. Bon, donc, catastrophe. Et là, vous aviez l'État central américain, Washington, l'administration de Biden, qui menaçait d'envoyer la garde nationale pour détruire les équipements qui avaient été installés par le gouverneur du Texas, qui s'appelait Abbott, sur la portion. Et vous aviez des dizaines d'autres États américains qui ont soutenu le Texas en disant que le Texas avait le droit de défendre la frontière, y compris contre ce que Washington disait. À l'époque, naturellement, vous n'avez pas entendu les médias européens et français en parler parce que c'était en sens inverse. Donc là, c'était plutôt le méchant Texas qui faisait se noyer des immigrés qui tentaient d'entrer clandestinement sur le territoire américain. Et donc, c'était Washington qui avait raison d'aller imposer au Texas de les laisser passer. Mais vous constaterez que c'est vraiment un miroir de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez Washington qui s'est imposé à la Californie d'expulser les immigrants illégaux et à la Californie qui s'y oppose. Mais à chaque fois, ça veut dire quoi? À chaque fois, ça veut dire que vous avez l'État fédéral et les États fédérés, certains États fédérés, qui s'opposent sur la question migratoire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la couleur du pouvoir au niveau de l'État fédéral, vous aurez grosso modo la moitié des États fédérés qui sera contre lui, parce que sur cette question très importante, existentielle finalement, de l'immigration, substantielle sinon existentielle, de la nation, puisque ça change le corps social. Mais c'est aussi politique, parce que ça permet de modifier la composition du corps électoral, etc. Sur cette question-là, donc, vous avez deux Amériques, très clairement. Et aujourd'hui, si c'était Kamala Harris qui était au pouvoir à Washington, qui avait été élue, eh bien, vous auriez sans doute à nouveau le Texas qui serait dans la même confrontation qu'avec Biden, mais à un niveau de violence encore supérieur, parce que ça serait monté en tension depuis. Et ça, c'est
Philippe,
extrêmement important.
petite priorité au direct,
Oui.
petit message de notre consultant Lucien Furcarte.
On lit dans Spectateur Index à l'instant qu'Israël vient de reprendre les frappes directes sur Téhéran, ce soir.
Direct sur Téhéran, d'accord. Ok. On fera le point tout à l'heure, alors là-dessus. Donc, ce que vous devez comprendre sur cette question donc des États-Unis, c'est que, en fait, et c'est assez typique de trajectoires historionomiques au long cours, et de cette montée vers l'absolutisme, parce que la montée vers l'absolutisme, je renvoie à ce petit bouquin hein, qui est paru au début de l'année. Cette montée vers l'absolutisme à l'échelle américaine, je rappelle qu'en fait les États-Unis aujourd'hui sont au stade de construction nationale auquel était la France au XVIIe siècle. C'est-à-dire que vous avez un État central qui se construit naturellement aux dépens des États, des pouvoirs locaux persistants et traditionnels. Ce que sont les États fédérés aux États-Unis. Les États fédérés, c'est un petit peu l'équivalent des grands féodataires, si vous voulez, des grands féodaux, des grands aristocrates, des très grands aristocrates de la couronne, comme le connétable de Bourbon sous François Ier ou ce que vous voulez. Et le but de l'État fédéral, comme j'ai dit, c'est l'État royal en France, c'est de s'imposer et de grandir, de prendre la place en fait des États fédérés. Et ça se fait par étapes. Hein. Vous avez déjà eu la guerre de sécession, c'est déjà un truc sur cette étape-là. Mais là, on va vers d'autres choses. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est cette dynamique-là qui compte. C'est-à-dire la grosseur de l'État fédéral contre les États fédérés. Et que ça peut être, l'État fédéral peut être d'un bord ou l'autre, ça ne change rien. Au fond, c'est ça la question. C'est-à-dire que Kamala Harris, si elle avait été au pouvoir, aurait aussi été acteur de l'absolutisation de l'État fédéral américain contre les États fédérés que l'est Donald Trump. Donc ce n'est pas un problème de Donald Trump ou pas Donald Trump. C'est véritablement la dynamique fondamentale de l'État américain qui va dans cette direction-là. Si les démocrates avaient gagné, ça aurait été pareil. S'il y a une alternance démocrate prochainement, ça reviendrait au même. Hein. Ça va dans ce sens-là. Petit incident quand même, il semble que cette évolution a quand même eu un petit effet de bord, c'est de favoriser la réconciliation finalement de Musk et Trump, même si c'est difficile de savoir si c'est une réconciliation profonde, etc. Mais Musk s'est grosso modo excusé d'avoir publié certains tweets, donc je pense qu'on n'entendra plus parler de l'affaire Epstein. Donald Trump a dit qu'il pourrait se réconcilier avec Musk, donc pour l'instant les deux ont l'intention de travailler, mais je pense que au-delà en plus du fait que bon, Sans doute, encore une fois, je l'avais dit, du côté de Donald Trump, il y avait toujours la possibilité de revenir sur ce genre de clash. Du côté de Musk, c'est via la mise en avant de la publication de cœur de messages de soutien à la politique de Trump en Californie que Musk est en fait revenu finalement vers Trump. Donc je pense que cette crise en même temps, sur cet enjeu très important de l'immigration dont Elon Musk a beaucoup parlé, en particulier l'immigration venant d'Amérique latine, il y a un accord et donc ça a réuni un petit peu les deux personnages dans cette idée de confrontation sur un fondamental important de la stratégie de Donald Trump. Donc véritablement, moi je vois là-dedans, encore une fois, au fond et derrière la question migratoire elle-même, la montée vers l'absolutisation et le renforcement du pouvoir à la fois de la fonction présidentielle et de l'État fédéral américain, capable d'utiliser les gardes nationales pour imposer l'ordre aux États fédérés. Donc je pense que ça va continuer. La question, c'est est-ce qu'il est possible que tout ceci finisse par dégénérer en guerre civile? Parce que ça, c'est la question. Et c'est pas du tout à exclure, et j'ai même envie de dire que ça paraît tout à fait possible, en particulier si on se retourne vers le modèle que j'utilise habituellement pour comparer et essayer de comprendre l'évolution de la situation aux États-Unis. Et si vous regardez ce qui s'est passé, ce que j'ai commenté dernièrement sur X, j'ai parlé de la guerre sociale, vous savez. La guerre sociale, c'est cette guerre qui a éclaté en 90 avant Jésus-Christ, 91, entre ce qu'on appelait les alliés, c'est-à-dire en fait les États fédérés italiens, autour de la puissance romaine et la puissance romaine elle-même. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les Italiens en avaient assez de pas être intégrés sur un pied d'égalité avec les États romains, puisqu'ils étaient en fait quelque part citoyens passifs, donc ils n'avaient pas le droit de vote. C'était la citoyenneté sine suffragio, hein, c'est-à-dire sans droit de suffrage dans les affaires romaines. Donc ils n'avaient pas cette citoyenneté, mais en même temps, il travaillait finalement pour la puissance romaine. Souvent, il servait d'auxiliaire dans l'armée, etc. Donc, il servait la puissance romaine, mais il ne faisait pas partie de la puissance romaine. Et la guerre sociale, en fait, c'est un petit peu comme la guerre de sécession au plan formel, c'est-à-dire que vous avez eu une confédération italique qui s'est créée, un gouvernement bis qui rassemblait en gros les cités qui voulaient les mêmes droits que Rome et qui ont décidé de se les donner elles-mêmes de manière séparée, puisque Rome le refusait de les leur donner. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en me reprochant là-dessus, je me suis aperçu que donc vous aviez eu. Et c'est très intéressant parce que c'est au moment des Gracques, en fait. C'est-à-dire, c'est cette période, cette décennie 120 avant Jésus-Christ, vous savez. C'est le moment où vous avez les deux frères, Tibérius et puis ensuite Caius Gracchus, auxquels j'ai souvent comparé les deux Trump, le Trump du premier mandat et le Trump du second mandat. Et donc, à cette époque-là, vous aviez Rome qui avait à la fois fait un plébiscite et un senatus consulte. Alors, qu'est-ce que c'est, petite incise institutionnelle romaine, le senatus consulte, c'est un vote du Sénat, et le plébiscite, c'est un vote de la plèbe. Donc ça veut dire que vous aviez à la fois le Sénat qui avait voté sur la question, donc les patriciens romains, l'aristocratie, et à la fois le peuple romain. Donc tout le monde était d'accord, tout Rome était d'accord, les élites comme le peuple, pour s'en prendre et limiter le droit d'immigration. C'est-à-dire qu'en gros, tous les non-citoyens qui résidaient à Rome, au terme de cette décision, devaient être expulsés. Et il y a eu la révolte d'une ville d'Italie qui s'appelle la ville de Fregelles, et qui a été complètement saccagée par l'armée romaine. Et c'était un petit peu les prémices, ça, si vous voulez, de la guerre qui s'est déclenchée 30 ans plus tard, donc qui a été la guerre sociale. La question, c'est où est-ce qu'on en est exactement? Est-ce qu'on en est grosso modo au moment du vote du ce plébiscite, donc ce senatus consulte, qui limite les droits des citoyens, ou bien est-ce qu'on est déjà à la veille du déclenchement d'une guerre sociale? Il y a des éléments qui vont dans les deux sens. Et c'est vrai que le fait que vous ayez, on va le voir après ce week-end, peut-être, on va voir comment les choses se passent. Si à l'échelle du pays, la contestation continue d'augmenter, on pourrait arriver plus vite au stade de guerre civile que ça n'était le cas à Rome. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui est également important et qui joue, c'est que c'est depuis le début de la présidence de Donald Trump, donc ça fait 6 mois maintenant, C'est le premier acte de, comment dire, d'opposition organisée à Donald Trump qu'on voit se déployer sous nos yeux. C'est-à-dire que jusqu'ici, il n'y en avait pas. On a eu beaucoup discuté et évoqué et commenté, constaté le fait que ben, il y avait quasiment plus de parti démocrate, c'est-à-dire qu'il y avait que Donald Trump semblait avoir la voie totalement libre pour faire tout ce qu'il voulait sans opposition. Eh bien, on se rend compte et d'ailleurs j'en avais parlé dans les émissions précédentes, j'avais dit qu'il n'était pas probable qu'il n'y ait plus du tout d'opposition démocrate et que tout s'abandonne comme ça, mais qu'on aurait probablement une recomposition progressive de cette résistance au pouvoir de Donald Trump et peut-être qu'elle serait assez violente notamment parce qu'encore une fois, un certain nombre d'actions qu'a eu Donald Trump a mis une partie des anciennes élites le dos au mur, notamment tous les gens qui ont perdu leur emploi à cause de la limitation et du démantèlement de l'USAID, tous les gens qui ont dû vendre leur maison à Washington, etc. Ça fait des gens qui sont capables, peut-être pas forcément de descendre dans la rue, mais en tout cas, intellectuellement, de nourrir une contestation. Et quand tu as des gens agités, une masse de manœuvre capable de faire ça, à partir du moment où vous avez une masse d'immigrés qui risque d'être expulsés, vous l'avez, cette masse de manœuvre qui, de toute façon, existe. Donc, assez clairement, on a cet effet-là qui joue et qui, à mon avis, rend d'autant plus probable le fait qu'on aille vers des affrontements civils. Et il suffit qu'il y ait quelques bavures, quelques trucs comme ça, pour que ça finisse par déraper. Assez clairement, en particulier si l'armée est utilisée, quand vous commencez à envoyer l'armée contre votre propre population, il y a d'énormes risques de bavure et justement que la guerre civile se déclenche. Donc on va voir comment tout ceci se développe, mais il faut bien se rendre compte que forcément, ça c'est pour le coup quelque chose qui envoie un assez mauvais signal de possible faiblesse interne américaine qui pourrait pousser les ennemis des États-Unis, notamment encore une fois la Russie et la Chine, à s'enhardir en se disant que de toute façon les États-Unis sont sur le point peut-être d'imploser. Hein. Vous savez, ça fait partie des choses qui sont notamment extrêmement présentes dans la mentalité russe, dans la mentalité des siloviki qui sont à la tête de la Russie, qui sont persuadés que, grosso modo, les États-Unis aujourd'hui sont un empire équivalent à ce qu'était l'empire soviétique, et que donc ils connaîtront leur moment Gorbatchev et leur moment implosion et leur moment rabaissement de la Russie des années 90, et que ce moment-là sera le moment pour la Russie de faire un pas en avant. Et dans tout ce que fait Vladimir Poutine, il y a l'idée que ceci est arrivé. Alors, il y en a certains qui ont pensé que c'était déjà le cas en 2008, avec les difficultés économiques. Bon, finalement, c'est pas venu. Mais côté russe, il y a l'idée de provoquer ça. Et donc, il est tout à fait plausible que d'ailleurs, en plus, des pays comme la Russie, comme la Chine, essaient d'utiliser ces mouvements comme outil de déstabilisation aussi. Aux États-Unis en soutenant les adversaires de Donald Trump et en favorisant éventuellement une plongée dans un conflit interne. Encore une fois, le début des guerres civiles n'a pas empêché finalement Sylla d'aller écraser Mithridate Dupont, même s'il a dû le ménager pendant un moment. Mithridate Dupont, je le rappelle, c'est ce souverain du nord de l'Anatolie qui avait conquis pratiquement tout l'Orient, y compris une partie de la Grèce qui s'était ralliée à lui, en profitant de la faiblesse justement de Rome, mais qui a fini par être totalement vaincu et conquis par la puissance romaine. Et donc on peut imaginer ce genre d'évolution aussi du côté des États-Unis. Donc je pense là aussi que nous sommes face à des développements assez significatifs. En tout cas, qui sont en totale cohérence, encore une fois, avec l'absolutisation sous-jacente du régime américain. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les États-Unis. Est-ce que nous avons eu de nouvelles news à propos de l'Iran, mon cher Léo?
Nous en avons et je fais
Ah.
appel en duplex à notre correspondant Lucien Furcart.
Et toujours au spectateur index, effectivement, l'information vient des radios militaires israéliennes qui confirment que les frappes ont repris sur un certain nombre de cibles en Iran et notamment dans la capitale Téhéran, ce soir même.
D'accord. Alors, qu'est-ce que j'essaie de regarder? Oui, on a des images de Téhéran avec les défenses aériennes qui essaient de riposter. Je vois qu'Israël a annoncé un mort et 44 blessés comme résultat de l'attaque. Et voilà. Très intéressant sur le Middle East Spectator, le type qui tient le canal Telegram dit ceci. Je peux maintenant confirmer que les systèmes de défense aérienne iranien ont été soumis à un brouillage électronique massif et des cyberattaques pendant les premières heures de l'aube ce matin, combiné avec des frappes de couverture depuis l'intérieur du territoire iranien. Donc, ça, on a vu, c'est ce qu'ont lancé les agents du Mossad à l'intérieur. Le type poursuit. Cela a pris aux techniciens des forces de défense aérienne 8 heures pour les remettre en action, mais ils ont réussi. Il n'est pas impossible que la supériorité et la suprématie aérienne israélienne ne soit plus exactement ce qu'elle a pu être dans la journée, si jamais ces outils ont pu être remis en route, à savoir maintenant si en plus, je suis pas un technicien du brouillage, si une fois qu'on a surmonté un brouillage, c'est fini et il marche plus, ou bien s'il suffit de recommencer à faire le brouillage pour refaire le même effet. Ça, j'en ai absolument aucune idée, je suis pas techniquement compétent pour ça. Mais enfin, voilà où nous en sommes ce soir. Ah, je vois, première frappe israélienne contre les côtes iraniennes pour la première fois.
Tu dis vrai,
Donc.
tu dis vrai, et j'ai été personnellement, en ayant vu cette information sur le canal en question, où il y a en fait pas mal d'infos, on nous dit qu'il y a des fighters israéliens, donc des avions en route pour l'Iran. On nous dit que ça explose à Téhéran, qu'il y aurait que les Iraniens refuseraient d'aller se mettre à l'abri et sortiraient dans la rue en soutien au gouvernement. On se demande aussi si sur les côtes, ce que tu venais de mentionner, est-ce que ce ne serait pas des infrastructures d'énergie?
Pétrolière, ça c'est tout à fait plausible, oui, c'est ce que j'allais dire. Ça me paraît évident que Israël doit tenir sa promesse finalement et lancer ses attaques là. Très bien. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter? Moi j'ai dit ce que j'avais à dire.
Quelques éléments, d'autant que contrairement à ma malheureuse habitude en général, j'ai été voir sur Tipeee, mais je vais d'abord quand même aller sur YouTube. On remercie Michi Mishka qui a offert une souscription en cadeau. Ce qui m'a fait me dire qu'il
Merci.
faut vraiment qu'on change ce système et que la souscription offre par exemple l'accès à des vidéos. On remercie Dominique pour son don avec un sticker difficile à décrire. Une grosse patate bleue avec un bandeau et une plume sur le bandeau, c'est magnifique. On remercie Yukio pour son généreux tip sur Tipeee, merci beaucoup. Et on remercie Philippe pour son don sur Tipeee. Il nous pose une question, je te la pose. À quand de l'historionomie économique? Et après, c'est une question sur quels actifs investir compte tenu de la séquence historique dans laquelle on se trouve. Lockheed Martin.
Alors, de l'historionomie économique, alors c'est toujours une partie, c'est un petit peu en sous-jacent de certaines choses. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les canaux Telegram et qui recherchent là-dessus, notamment sur certains cycles longs de distribution du capital et des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de travail. Moi, je suis pas. Moi, à la base, je suis historien du droit et des institutions. Et donc, c'est vrai que du coup, l'historionomie est partie d'abord sur l'angle, d'ailleurs, c'est peut-être le seul moyen d'ailleurs de démarrer, hein. Il fallait peut-être partir de là parce que c'était les choses les plus faciles à voir finalement. C'était quoi les low-hanging fruit, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ce qui était le plus facile à cueillir, les questions institutionnelles. Maintenant, effectivement, il faut développer tout ça. À quand, je sais pas. Il y a encore une fois, moi j'ai des idées de choses qu'il faudrait chercher. Après, le problème, c'est d'aller chercher des données parce qu'il faudrait avoir pas mal de données économiques. Dans des périodes assez reculées où elles sont partiellement reconstituées parfois par les historiens, mais c'est très difficile pour essayer de mesurer. Et donc forcément, tout un tas d'exemples historionomiques qu'on connaît sur certains biais, par exemple, on sait que là, il y a eu une révolution nationale, ben, la plupart des révolutions nationales sont trop loin, trop anciennes, en tout cas une bonne partie, pour avoir des données économiques suffisamment intéressantes pour faire des modèles. En tout cas, à mon sens, et à ce stade-là, maintenant, ça serait un moyen de développer tout ça. Effectivement, on essaiera d'aller dessus. Et quant au conseil d'investissement, je ne donne rien parce que je suis tout à fait nul là-dessus. Donc, je ne veux pas m'avancer. Je pense qu'il vaut mieux que vous suiviez ce que je dis et que si vous touchez un petit peu votre bille économiquement, vous conseillez vous-même sur ce qu'il est intéressant de faire. Voilà.
Une question de Benoît. Étant donné les liens militaires entre la Russie et l'Iran, est-ce que l'attaque israélienne peut être un facteur poussant la Russie à escalader en Europe afin de reprendre l'initiative?
Dans l'immédiat, je pense pas que la Russie soit dans la réaction à ça. Mais dans le calcul géostratégique global, ça va finir par peser, c'est certain. Mais je pense pas que ça va justifier quelque chose d'immédiat.
Ok, bah écoute.
Alors attends, je voudrais quand même saluer un certain nombre de gens qui nous ont rejoints depuis une semaine, parce qu'on a quand même pas, on les a pas tous dit. Alors. Alain Co nous a rejoint, que je remercie d'ailleurs parce qu'il fait d'énormes efforts pour diffuser ma pensée sur X, donc c'est très gentil. J'attends, je note juste les abonnements. GMB, Salami, Luc, Mathieu Russo, Daniel Gauthier, Dom Brutus, Benoît Kounmem. Attends, j'essaie parce que le problème c'est que moi ça saute ma liste, j'arrive pas à rester fixé. Je ne sais pas si tu as un problème avec YouTube. Donc Benoît Krumnemaker. HJ447, bon, je suis désolé, j'arrive pas à donner tous les chiffres, ça saute. Enfin, merci. Attends. JBL, Tony, Roger Antoine, Eddy Cuencas, Jean-Baptiste Filosa et André. Ah, zut. Il saute tout le temps. Adrien Mazon. Et voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui nous ont rejoints sur YouTube, qui ont répondu à l'appel pour soutenir la chaîne, et je les remercie vivement. Encore une fois, on vous offre 4 ou 5 heures de contenu gratuit. Vous pouvez en plus avoir du contenu supplémentaire avec les souscriptions, mais même si vous bénéficiez que du contenu gratuit, ce serait très gentil de nous faire un petit geste juste pour nous faire savoir que vous êtes heureux d'en bénéficier. Depuis une semaine, donc c'était quand la dernière émission? C'était le 9 juin, je crois. Non, c'était quand qu'on a fait notre dernière émission? C'était vendredi dernier? Ouais. Donc, alors, depuis la semaine dernière, nous avons eu l'ajout, je pense, de. On va dire depuis 7 juin. De Pascal, Laure, Guillaume, François, Axel, Simon, Sébastien, Baptiste, Arnaud, Victor. Jojo, Yod, François, Norman, et voilà. Et tu as dit Yukio et Philippe qui ont participé maintenant. Je les remercie. Je remercie tous ceux qui, en revisionnant cette vidéo en replay, participeront aussi. Ça nous aide énormément à essayer de poursuivre la diffusion et notamment les promotions de la chaîne. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter, mon cher Léo, avant de passer dans le live privé des souscripteurs?
Rien de plus, sinon que je répète, il reste quelques places. C'était 5 tout à l'heure, j'ai pas regardé si ça avait changé, mais pour le congrès de dimanche, le lien est dans la description. Donc inscrivez-vous, on vous accueillera avec plaisir, avec des conférences fort intéressantes. Et on va passer maintenant en live privé pour répondre aux questions des souscripteurs. Rejoignez-nous comme souscripteurs via YouTube ou via Tipeee. Vous avez les informations dans les différentes données de souscription, notamment dans l'onglet, dans le bouton Rejoindre sur YouTube ou sinon sur Tipeee, le lien est dans la description. Et ensuite, pour nous rejoindre, une fois souscripteur, c'est dans l'onglet. Alors, c'est plus communauté, je sais plus ce que c'est sur YouTube, on m'a corrigé la dernière fois. C'est souscription. Je regarderai. Et sinon, sur Tipeee, c'est dans l'onglet News.
Est-ce que tu as un teasing à base de deux ou trois questions qui ont déjà été posées, que les gens sachent de quoi on va parler?
Je crois que c'est dans l'onglet post pour YouTube. Pour un teasing de questions qui se posent en live et auxquelles on répond, il y a par exemple une question de Dave lors de la dernière émission qui nous demande: l'Ukraine pourrait-elle dissuader la Russie sans armes nucléaires via des milliers de drones FPV armés pendant l'invasion trop coûteuse? Il y a par exemple cette question de Bertrand Aumont. Quel parti politique soutenir en France pour qu'on ait une réduction de la taille et des missions de l'État? Il y a par exemple cette question de Mati. Pourquoi la gauche fantasme-t-elle de grands révolutionnaires? en voyant les émeutiers piller un magasin après un match de football. Il y a aussi cette question de Encerolo. Trump pourrait ne diriger que 2 ans s'il perd les mi-termes. L'intérêt de Musk serait donc de faire le dos rond et récupérer son successeur, Vance, par exemple. Je vais en poser une dernière. Par exemple, fait Al-Dahir, l'écartement de Musk des subventions US par Trump risque-t-il de donner un mauvais signal aux tech bros, affaiblissant les États-Unis face au bloc eurasien dans la course technologique? Point d'interrogation. Voilà donc, mon cher Philippe, le type de questions auxquelles nous répondons dans les lives privés.
Et ceux qui souscrivent pour les lives privés ont aussi tout le catalogue des lives privés passés et peuvent donc aller les consulter, c'est pas uniquement ceux à venir. Je vous dis à tous, merci beaucoup pour votre présence ce soir. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne si vous l'avez découverte avec cette émission. Et ne vous laissez pas...